Je réponds tout de suite à cette question. En quel sens faut-il comprendre qu'il peut y avoir connaissance sans affectivité dans les sciences mathématiques, spécialement, hein, la volonté, et puis de façon aussi en philosophie d'une certaine manière, la volonté n'est-elle pas engagée obligatoirement dans tout exercice de l'intelligence? Oui, elle est engagée toujours du côté de l'exercice. Mais quand on dit connaissance spéculative, ça veut dire que l'affectivité ne joue pas un rôle de détermination objective. Alors, j'explique pour que vous voyez mieux. Il faut toujours distinguer, quand on fait l'analyse philosophique, par les diverses causalités, il faut toujours distinguer le point de vue de l'exercice, qui relève de la causalité efficiente, et le point de vue du contenu de la connaissance, de la détermination de la connaissance qui provient de l'objet. L'objet, c'est ce qui détermine, c'est ce qui spécifie, ce qui me donne donc le contenu de la connaissance intellectuelle. Tandis que l'exercice, c'est tout simplement le fait de connaître. Tout acte de connaissance implique un exercice dans l'ordre de la connaissance. Et puis, ça implique une détermination. Alors, quand je parle de connaissance affective, c'est lorsque l'amour fait partie de l'objet. Je connais quelque chose, une réalité, je connais une personne humaine, parce que c'est surtout à l'égard d'une personne humaine. Je connais une personne humaine en l'aimant. Et grâce à cet amour, je peux m'approcher d'elle d'une manière telle que je ne la connais plus de l'extérieur, mais je la connais de l'intérieur. C'est une connaissance intérieure, amoureuse, affective, qui se fait par l'intérieur, et non plus de l'extérieur. Vous voyez, quand j'aime un chien, j'ai une connaissance affective du chien. À la place de le connaître de l'extérieur uniquement, j'ai une connaissance intérieure, affective. Ce qui fait que les gens qui ne regardent qu'objectivement ce chien m'assomment parce que moi, je l'aime. Et parce que je l'aime, j'ai tout un halo différent. Je le regarde à travers cet halo affectif. Mais le propre de la connaissance affective, c'est que l'amour détermine et modifie l'objet connu. C'est ce qui arrive automatiquement, nous n'y réfléchissons pas, mais dès que nous réfléchissons un tout petit peu sur ce que représente la connaissance affective que nous avons vis-à-vis de telle ou telle chose, nous voyons que tout de suite nous jugeons autrement. Alors ça peut aller très loin dans cette connaissance affective, c'est qu'au bout d'un certain temps, on ne voit plus que l'amour, et c'est ce qui fait dire que l'amour aveugle. Parce que quand c'est la passion, vous comprenez, je ne vois plus. Je vois tout à travers un prisme particulier, un prisme rouge. Et je vois tout en rouge. Ou je vois tout en vert. Je ne vois plus que les qualités. Parce que l'amour me permet de regarder cette personne sous un angle particulier, sous l'angle par lequel je l'aime. Et puis quand l'amour cesse, on dit « Tiens, c'est idiot, j'étais un imbécile, je regardais comme ça, je ne voyais pas que j'avais des lunettes complètement fumées. » Et alors maintenant, je regarde au contraire directement et je vois, et je saisis. C'est le propre de l'amour qui me permet de m'approcher de la réalité, non seulement de m'approcher, mais de la saisir de l'intérieur. C'est ça la connaissance affective. Tandis que la connaissance spéculative, c'est quand la volonté est uniquement là pour permettre de s'appliquer. Je m'applique à la réalité. Oui.
Alors, est-ce qu'il peut y avoir une connaissance affective au niveau intellectuel, puisque le bien est consigné dans la connaissance intellectuelle?
Peut-il y avoir une connaissance affective au niveau intellectuel? C'est que justement, le propre de la connaissance affective est toujours au niveau individuel. Oui. La connaissance contemplative au point de vue métaphysique porte sur Dieu. Dieu il saisit selon un mode universel, parce que ma connaissance, mais Dieu n'est pas l'universel. Vous voyez ? La connaissance spéculative, hein, alors là c'est tout le problème de la connaissance spéculative, on ne va pas trop rentrer dedans, parce qu'on la verra un jour, on critique, mais je ne veux pas trop développer ça maintenant. La connaissance spéculative saisit des principes. Les principes, ce n'est pas l'universel. Il est saisi sous un mode universel, mais ce n'est pas l'universel. Et le principe a toujours un contact avec le réel, existant et singulier. Et la connaissance spéculative se termine toujours, quand elle est vraiment une connaissance spéculative et philosophique, elle se termine toujours à la réalité existante. Les castors, selon votre petit chaîne de l'autre jour, les castors du proséminaire. Et la connaissance spéculative se termine à l'écastone, c'est-à-dire on saisit chacun, et on saisit toujours une réalité existante. La connaissance spéculative, ça c'est la confusion habituelle qu'on fait, parce qu'on fait une confusion entre la logique et la métaphysique. La logique regarde l'universel, la métaphysique regarde ce qui est. Or, ce qui est toujours singulier, donc la métaphysique regarde toujours les réalités singulières. Selon un mode universel, par les principes, et donc une connaissance scientifique. Tandis que la logique, elle, regarde l'universel. Ça, c'est du pur aristotélisme et du pur saint Thomas. Tandis que la logique, elle, regarde toujours l'universel. La logique regarde la définition. La définition n'est pas philosophique. C'est pré-philosophique, c'est logique. Il n'y a pas de définition en philosophie. Il y a des définitions en logique. Il n'y a pas de définition en philosophie, au sens fort. Parce que la philosophie est aussi au niveau des principes. Or, je ne définis pas un principe. La définition, elle est affaire du genre et de la différence spécifique. Donc, elle est universelle. Le principe n'est pas la saisie de l'universel. Elle est la saisie de quelque chose de réel, en profondeur, selon un mode universel. Vous voyez ? Mais ce n'est pas l'objet. Ça, et on sent beaucoup de peine à ça, parce qu'instinctivement, on dit la science regarde l'universel. Non. La logique regarde l'universel.
C'est pas l'aspect subjectif qui détermine cette connaissance.
C'est l'aspect subjectif fait que je connais selon un mode universel. Je ne peux pas connaître un principe selon un mode singulier, comme principe. Donc, je l'ai connu par mode d'abstraction. Et donc, il a quelque chose de nécessaire et quelque chose d'universel, en principe. Quand je saisis la substance, je la saisis selon un mode universel. Mais ce n'est pas l'universel. C'est un contenu réel que je saisis. Je saisis quelque chose de la réalité. Je saisis quelque chose de ce qui est. Oui. Et c'est pour ça que je pourrais revenir à la réalité pour regarder la propriété. Et à ce moment-là, je reviens à l'écastone. Les castons, c'est très difficile à traduire, hein. C'est ce que chacun est, pris en lui-même comme réalité existante. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout l'universel, les castons. C'est l'application de la réalité, la réalité qui existe. Bon, pas d'autres questions ? Alors, nous étions arrivés la dernière fois, après, vous dites ça. Qu'est-ce que l'appréhension ? Mais je ne vous avais pas posé une question, terminé. Non. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'appréhension ? La grande question sur l'appréhension. Je vous avais montré comment nous ne pouvions pas rester sur le jugement et que nous devions aller au-delà du jugement pour saisir ce quelque chose, je ne sais pas encore quoi, que j'appelle appréhension, qui est une opération antérieure au jugement, n'est-ce pas, donc primordiale par rapport au jugement, mais primordiale non pas dans le sens de premier selon l'ordre de l'exercice, mais premier selon l'ordre critique. Alors il faut bien comprendre ce que c'est que l'ordre critique. Hein. Alors je mets appréhension, puis on va essayer de voir progressivement ce que c'est que cette appréhension. Cette appréhension, c'est donc l'élément indivisible de la connaissance. Pourquoi ? Parce que le jugement implique une dualité
Et cette dualité implique donc une certaine unité.
Toute dualité, toute dyade implique une unité. Une dualité qui existe. Donc, il y a nécessairement, au-delà du jugement, une opération élémentaire, donc une connaissance élémentaire, parce qu'elle est élémentaire, elle est indivisible, qui dit élémentaire dit quelque chose d'indivisible, une connaissance élément, qui est de l'ordre de la connaissance, qui est antérieure au jugement, mais d'une antériorité qui n'existe pas par elle-même, d'une antériorité que l'intelligence est capable de découvrir, par sa méthode réflexive. L'intelligence découvre qu'il y a nécessairement quelque chose d'antérieur au jugement, et qu'il y a ce quelque chose antérieur au jugement, il est au-delà de la dualité. Comment il ne serait pas antérieur au jugement? Parce que la dualité du jugement peut être extrêmement simple. Quand je dis ceci est, c'est une dualité très très simple. Il y a des dualités beaucoup plus complexes, mais celle-là est très simple. Et donc, s'il y a quelque chose d'antérieur à cette dualité, il faut que ce quelque chose d'antérieur soit quelque chose d'élémentaire, absolument simple. Autrement, il ne serait pas antérieur à cette dualité. Vous voyez, le raisonnement, hein, ça c'est raisonnement critique. Et donc, je dévoile à ce moment-là une opération qui est antérieure au jugement, qui est élémentaire et absolument indivisible, dont je vais me demander qu'est-ce qu'elle est. Qu'est-ce que c'est que cette opération élémentaire indivisible? Je me sers ici, comme toujours, hein, du langage. Le langage est un signe. C'est un signe pour la critique. C'est un signe de l'opération intellectuelle. Je me sers du langage et je m'aperçois que dans le langage, il y a en effet des mots à signification simple et non pas composée. C'est même ces mots à signification simple, non composée, ont été ordonnés. Ce qu'on appelle les catégories. On va réapparaître ici les catégories. Vous voyez, c'est intéressant. Les catégories apparaissent comme, justement, des mots simples qui ont une signification indivisible. Alors, prenez n'importe quelle catégorie, parce que vous les connaissez par cœur, la qualité. La qualité, comme telle, a une signification simple. Elle exprime une détermination particulière de la réalité existante. Et quand je dis blanc, ah voilà le mot blanc. Quand je dis blanc, blanc a une signification. Et une signification simple. Une signification qui va dépendre évidemment de tel ou tel sujet, le blanc du mur. Mais cette signification est une signification simple, capable d'être attribuée à divers. Mais cette signification est simple. Quand je dis, par exemple, 100 kilos, c'est une quantité qui a aussi une signification particulière, irréductible au blanc. Je peux dire 100 kilos de blanc, évidemment. N'est-ce pas? Mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais c'est une catégorie, un mot qui signifie quelque chose. Allons un peu plus loin. Quand je prends le mot animal, ça a aussi une signification simple. Oui, toutes les catégories ont une signification simple. Et au fond, les catégories rassemblent les mots de signification simple. C'est très important ici au plan critique. Vous voyez comme les catégories vont me servir au plan critique. Vont me servir à me poser le problème. C'est ce que saint Thomas a très bien saisi, mais alors il l'a saisi du côté logique, alors que je crois qu'on doit le saisir du côté critique. C'est peut-être même une manière de bien situer ce que c'est que la catégorie. Au fond, je peux bien situer ce que c'est que les catégories en critique et non pas au sens strict en logique. C'est en critique que je peux la saisir. Je peux saisir exactement, en effet, les catégories, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est très élémentaire. Alors ici, je regarde uniquement les mots. Hein. Je regarde le legay, si vous voulez. Le legay qui me sert de signe. J'ai des mots, en effet, qui ont une signification simple, qui sont attribués à des quantités d'autres choses. Et dans toutes les langues, ces mots expriment une certaine connaissance. Je passe du Legein au Noël. Il y a donc une certaine connaissance élémentaire qui s'exprime à travers ces mots. Alors, quelle est cette connaissance élémentaire qui m'est donnée à travers les catégories? Pour pouvoir dire blanc, il faut que j'ai pensé. Pourquoi? Parce que blanc a vraiment une certaine signification. Comme toutes les catégories ont une signification propre. Ce n'est pas simplement de l'ordre de la représentation. Je peux me représenter le blanc du mur. Voyez, mais je me représente le blanc du mur. Je ne me représente pas blanc. Le blanc du mur, ça va très bien, grâce à l'extension du mur. Alors, je me représente le blanc du mur. Vous voyez, c'est même un très bel exemple pour saisir la différence entre la représentation et la signification. C'est toujours très important de faire le petit changement là, d'arriver à discerner les deux. Le blanc du mur, je me le représente. J'ai vu un mur d'une blancheur étonnante. Et jusqu'à la fin de mes jours, je resterai devant cette représentation de ce blanc du mur. Ou si vous voulez, le rouge du mur qui était extraordinaire, et au milieu il y avait un point blanc qui était merveilleux. Alors c'était quelque chose d'étonnant. Alors je me représente cela. Je me représente. Je peux avoir des nostalgies de la représentation. Tandis que lorsque je dis blanc, il y a une signification. Blanc a une signification, je ne me représente pas ce que c'est que le blanc. Cherchez pas, vous n'arriverez pas. Parce que tout de suite, vous tomberez dans le blanc du mur. Tandis, blanc a une signification, on ne se représente plus. On passe de la représentation imaginative à la signification. La signification regarde une opération de l'intelligence. Donc, les catégories me posent un problème au plan critique, c'est que je suis en face des significations simples. Des significations premières, auxquelles se ramènent toutes les autres significations. Il faut donc qu'il y ait nécessairement un taux Noël qui pense ces significations. Alors, est-ce que ce taux Noël qui pense ces significations, n'est-ce pas justement cette opération élémentaire indivisible? Vous voyez, la rencontre, le signe qui me conduit à quelque chose d'autre et qui rejoint l'interrogation que je me posais. Quelle est cette opération élémentaire? Cette opération élémentaire, qu'est-ce qu'elle atteint? Elle est à la source des premières significations, puisque je suis en face là des significations élémentaires. Alors revenons au jugement pour mieux saisir, au plan critique, comment cette opération élémentaire saisit quelque chose qui n'est pas donné directement dans le jugement, mais qui est présupposé dans le jugement. Vous voyez, c'est toujours l'attitude réductive, hein, il s'agit de venir successivement, il faut tout justifier, hein, c'est ça le côté extrêmement tenace de la critique. Je n'ai pas le droit de passer d'un moment à l'autre, parce que je n'ai pas le droit de faire invoquer l'autorité, saint Thomas a dit ça, donc, ça c'est pas critique. L'autorité n'a rien à faire avec la critique. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Ça n'a rien à faire avec la critique. Dès que vous faites appel à l'autorité, vous n'êtes plus en critique. C'est peut-être mieux, ça c'est autre chose, c'est différent. On ne peut pas dire que la critique c'est ce qu'il y a de plus absolu. La critique est une opération intellectuelle qui veut tout saisir par elle-même en analysant jusqu'au bout pour aboutir à l'élément. Et quand j'aboutis à l'élément, j'aboutis à quelque chose de fondamental à partir de quoi je peux tout reconstituer. Mais faisons attention, je peux tout reconstituer l'ayant déjà découvert. Je ne peux pas le déduire, hein. C'est une opération élémentaire. À partir de là, je ne déduis rien. Mais je vois que c'est une pierre fondamentale, c'est un roc. À partir de quoi, je vois que tout le reste se construit. Alors, cette chose qui c'est très curieuse, à voir que le jugement, la dualité, c'est le non et le verbe. Ceci est. Animal. N'est ni non ni verbe. Blanc n'est ni nom ni verbe. Donc, ce quelque chose qui m'est donné dans les catégories, ce quelque chose qui m'est donné dans les catégories, ne peut pas se ramener au nom et au verbe. Mais regardons bien, essayons de comprendre. Le nom et le verbe sont unis d'une manière indivisible. Quand je dis « ceci est », il y a une dualité, mais il y a une unité. Le jugement d'existence possède quelque chose d'indivisible. Il y a bien dualité, mais il y a quelque chose d'indivisible. S'il y a quelque chose d'indivisible, il y a donc quelque chose de commun entre le nom et le verbe. Ce tikoinon, hein, cette petite chose commune entre le nom et le verbe que je dois essayer de comprendre. Est-ce que ce quelque chose de commun entre le nom et le verbe, je pose la question, est-ce que ce quelque chose de commun entre le nom et le verbe, n'est-ce pas justement ce que l'intelligence saisit dans cette première opération? Mais que l'intelligence dépasse dans la dualité du jugement. Et comment il faut poser la question, je crois, au point de vue critique. Ce quelque chose de commun, je saisis quelque chose de commun entre le nom et le verbe. Vous pouvez prendre quelque chose de plus simple ou de plus compliqué, plus exactement, parce que quelquefois le plus compliqué est plus simple pour nous, n'est-ce pas ? Et dire Pierre est vertu ou intelligent, encore une fois. Voilà. Ça dépend. Bon, Pierre est intelligent. Alors, vous dites Pierre est intelligent, c'est le nom et le verbe. Ici, c'est un attribut. Et il y a le verbe copule, comme on dit, entre deux, qui permet justement d'unir les deux. Alors, est-ce que c'est la copule qui fait l'unité? Non. Puisque je peux avoir ceci est. Et c'est encore indivisible. Mais vous voyez, dans ce qui a Pierre est intelligent, ah là, je rassemble les catégories. Oui, Pierre, substance première, ça a été dit dans les catégories. Et puis, intelligence, ça a été dit dans les catégories qualité. Tiens, je retrouve les catégories. Et je retrouve l'alliance de la substance première et de la qualité, c'est-à-dire la substance première est en dehors des catégories, mais toutes les catégories lui sont appliquées. Donc, je retrouve bien ce que je cherchais. Le quelque chose de commun qui est entre Pierre et intelligent. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Pierre et intelligent? C'est qu'il y a la substance seconde. C'est grâce à la substance seconde que je peux unir Pierre et intelligent. La substance seconde, c'est quoi? C'est animal ou c'est homme? Pierre est un homme, donc il est capable d'être intelligent. C'est pas Pierre qui est intelligent, parce qu'il peut y avoir un autre Pierre qui est un imbécile. Mais c'est parce que Pierre est un homme qu'il est intelligent. Vous voyez, donc c'est par homme contenu dans la substance première que je peux attribuer la qualité. Vous voyez le petit jeu, là, j'analyse, hein, j'analyse, j'essaie de comprendre ce que d'habitude on n'analyse jamais. On assiste à un jugement d'existence, on ne dit pas mais comment s'est fait ce laboratoire du jugement d'existence? Il y a quelque chose qui est antérieur, nécessairement, à ce jugement d'existence, puisqu'il ne peut pas être premier. Et ce quelque chose d'antérieur, c'est ce qui permet aussi l'unité de ce jugement d'existence. Alors, je m'aperçois, quand je prends un jugement d'existence un peu plus complexe, et donc un peu plus simple, Pierre est intelligent, tout le monde peut comprendre ça. Tous ceux qui sont intelligents comprennent que Pierre est intelligent, n'est-ce pas ? Et donc, on comprend comment Pierre est intelligent, parce qu'il est un homme, et parce qu'il est homme, il est capable d'avoir cette qualité. Passe maintenant au jugement d'existence. C'est un petit peu plus difficile à saisir. Vous voyez, dans le jugement plus complexe, j'espère que vous voyez tous que ce jugement, Pierre est intelligent, repose sur les catégories. Puisque de fait, les deux éléments qui sont dedans, c'est la qualité et la qualité attribuée à Pierre grâce à la substance seconde. Donc, les catégories sont présentes. Donc, ce jugement « Pierre est intelligent » présuppose la saisie des catégories. Tout le monde peut saisir ça. C'est intéressant parce que ça me situe exactement à la place des catégories, au point de vue philosophique. je saisis que les catégories, pour bien voir l'importance des catégories, il faut faire donc regarder le point de vue critique. C'est le point de vue critique qui me montre que les catégories sont cette opération élémentaire sur laquelle tout l'édifice de l'intelligence va reposer. C'est le roc de toute l'intelligence et de toute la philosophie, les catégories. Alors on les grappe plus ou moins, n'est-ce pas, mais les catégories sont le roc sur lequel, alors quand on veut renouveler sa philosophie, il faut recomprendre ce que c'est que les catégories. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Je le découvre de cette manière. Je crois qu'on peut tous le découvrir de cette manière-là. Maintenant, je vais regarder le jugement d'existence, parce que c'est le jugement principal, le plus simple, c'est le plus difficile. Hein. Où se trouvent les catégories? Ah, je trouve substance première, ceci, mais ceci, c'est évident. Ça, c'est sûr. Mais ceci est en dehors le taux d'éthique. Le taux d'éthi d'Aristote, hein. Le taux d'éthi de la substance première est en dehors des catégories. Donc là, je suis est. Cherchez bien, vous ne trouvez pas dans les catégories est. Donc, le jugement d'existence est totalement en dehors des catégories. Donc, ça ne présuppose pas du tout les catégories. Donc, c'est fourré dedans. Ça ne présuppose pas du tout les catégories, puisque ceci est n'a rien à voir avec les catégories. Travaillez bien les catégories, vous verrez, oui, vous trouverez ceci, substance première, mais est. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait me répondre? Parce que je veux que vous trouviez ça, c'est la recherche qu'on fait ensemble. C'est ça le problème de la critique. C'est découvrir comment les catégories sont contenues implicitement dans le jugement d'existence, pas explicitement, mais implicitement. Donc c'est encore beaucoup mieux. La première opération élémentaire est complètement digérée dans le jugement d'existence. Tellement bien que je ne retrouve aucun des éléments. Tandis qu'au contraire, quand je dis Pierre est intelligent, oh, je retrouve la qualité, ça va très bien. Ce n'est pas pleinement digéré. Je suis au milieu de la digestion. Alors je retrouve la qualité. Tandis qu'au contraire, quand je suis en face du jugement d'existence, je ne retrouve plus aucun élément. Alors, est-ce que vraiment le jugement d'existence présuppose les catégories? Ou est-ce que le jugement d'existence peut se faire en dehors des catégories? Ça, c'est très grave comme question, vous comprenez? Très important comme question, c'est même capital pour comprendre l'importance des catégories et pour comprendre ce que c'est que le jugement d'existence. Est-ce que je repose une autre manière? Et c'est le nœud critique est là. Est-ce que je peux poser le jugement d'existence indépendamment d'une opération élémentaire? J'ai dit non tout à l'heure. Alors, quelle est cette opération élémentaire? Elle m'échappe puisque les catégories, puisque le jugement d'existence n'implique pas en lui-même les catégories. Donc, ce n'est pas les catégories qui sont antérieures. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne vois pas puisque la substance première est au-delà des catégories et est au-delà des catégories. Donc j'ai deux au-delà des catégories. Donc c'est pas ça que ça présuppose comme jugement élémentaire. Qu'est-ce que vous diriez devant ça? J'espère que vous voyez le nœud, hein. C'est important. Le jugement d'existence est le plus simple de tous les jugements. Donc au plan critique, c'est très important. Il faut toujours aller vers la simplicité au plan critique. Ceux qui ont une vocation de simplicité aiment la critique. N'est-ce pas? Parce que c'est très compliqué. Et il faut passer par la complexité pour arriver à la simplicité. Parce qu'on n'a pas une simplicité immédiatement. Là, il faut passer par la complexité pour arriver à la simplicité. Et c'est, je cherche la simplicité. Je vois que le jugement d'existence est le jugement le plus simple. Je vois que ce jugement d'existence ne peut pas être premier. Il implique une dualité. Et il implique une unité. Je vois, en regardant les mots, en regardant le langage, les signes, que les catégories apparaissent relevées d'une opération élémentaire, qui n'est pas le jugement. Quel est le lien qui existe entre les catégories, autrement dit, voilà ce comment, quel est le lien qui existe entre les catégories et le jugement d'existence? C'est beau comme question, ça, c'est très beau comme question. Et c'est important, parce qu'au fond, c'est la signification des catégories par rapport au jugement d'existence. Est-ce que, de fait, le jugement d'existence peut se séparer complètement du domaine des catégories, ou est-ce qu'au contraire, le jugement d'existence est toujours lié implicitement aux catégories? Alors, comprenez. Je réponds. Le jugement d'existence est inséparable d'une expérience. Si le jugement d'existence, vous voyez, c'est là, il ne faut jamais oublier, hein, je vous l'ai dit au début, mais c'est déjà loin. Le jugement d'existence est inséparable d'une expérience. Dans toute expérience, les catégories sont présentes. Toutes. L'expérience du travail, l'expérience de l'amour d'amitié, l'expérience de la coopération, toujours, toutes les expériences. Il y a toujours une catégorie. Parce que dans toutes les expériences, il y a une détermination. Et une détermination qui relève des catégories. Le travail, passion et action. Le travail, c'est la grande expérience de la passion et de l'action. Vous pâtissez et vous faites pâtir. Et si vous aimez de faire pâtir, vous aimez travailler. N'est-ce pas ? Je ne dis pas que tous ceux qui travaillent aiment de faire pâtir. Mais au fond, si vous aimez faire pâtir, vous travaillez. C'est évident. Vous ne pouvez faire pâtir qu'en travaillant. Alors là, vous faites action et passion. Vous touchez ces deux catégories, action et passion. Dans l'amour, vous touchez la qualité. Parce que vous touchez le bien. Et ainsi de suite. Dans toute expérience, il y a une qualité. Il y a une catégorie. Or, le jugement d'existence, nous l'avons dit, est toujours lié à l'expérience. Mais je peux extraire de l'expérience quelque chose de fondamental et de premier, qui est le jugement d'existence. C'est donc un au-delà des catégories. C'est très vrai. Le jugement d'existence est un au-delà des catégories. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a perdu le jugement d'existence. Toute la philosophie qui reste liée aux catégories, qui ne veut pas sortir des catégories. Il y a une philosophie qui ne veut pas sortir des catégories. C'est la philosophie qui s'est tellement identifiée à la logique qu'elle ne veut pas sortir de la logique. Alors à ce moment-là, elle est liée aux catégories. La philosophie part des définitions, la philosophie demeure dans les définitions. Et donc la philosophie reste au niveau catégorial. Une telle philosophie ne veut pas regarder le jugement d'existence. Parce que le jugement d'existence, c'est déjà un dépassement des catégories. Oui, ça, je vois tout de suite maintenant, quand je fais le parallélisme. Mais quand je dis que le jugement d'existence dépasse les catégories, ça ne veut pas dire que le jugement d'existence est indifférent aux catégories. Le jugement d'existence demeure toujours lié existentiellement aux catégories. Il est toujours lié aux catégories. Il n'explicite pas telle ou telle catégorie, mais il ne peut pas se passer des catégories. Donc, le jugement d'existence présuppose la connaissance des catégories. Et alors, je retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout jugement présuppose une connaissance catégoriale. Et cette connaissance catégoriale est une connaissance élémentaire. Alors, nous pouvons, à partir de là, voyez, comprendre le signe et l'analyse même de la connaissance me permet de comprendre cela. Si je poussais, du reste, je crois, hein, je ne vais pas le faire maintenant, mais je crois que si on poussait vraiment l'analyse du ceci est, substance première, on découvrirait la présence implicite des catégories. Sans nécessairement revenir à l'expérience antérieure au jugement d'existence. Il faut toujours faire cette petite démarche, ça aide. Mais je pourrais uniquement regarder l'analyse. Ça, ce serait très, très intéressant, du point de vue analyse du jugement d'existence. Est-ce que je puis comprendre la substance première sans la substance seconde? Donc, s'il y a ceci, il y a donc nécessairement la substance seconde. Substance première et substance seconde ne peuvent pas se séparer. Du moins, je ne peux pas séparer la substance première de la substance seconde. dès que je connais la substance première, pensez toujours à Pierre, hein, le sujet, Pierre. Je ne peux pas penser Pierre sans penser animal, sans penser homme. Impossible. Je ne peux pas penser Pierre sans penser animal, sans penser homme. Je crois que c'est absolument impossible. Autrement, vous vous répétez, c'est un mot, c'est tout. Et dès que vous pensez Pierre, mais vous pensez animal, vous pensez homme. Et au fond, la connaissance que vous avez de Pierre, c'est par homme. Donc, la substance première implique la substance seconde, implique les catégories. Et est. Saint Thomas nous dit, à la suite d'Aristote, que le verbe est toujours pensé lié au temps. Tiens. C'est important avec Heidegger, l'être et le temps, hein, c'est toujours très important. Eh bien, c'est très curieux de retrouver ça. Vous ne pouvez pas penser est sans la dimension temps. Parce que votre jugement d'existence, il est toujours dans le temps. Et il regarde le temps présent. Donc, le jugement d'existence, qui paraît si simple et au-delà de toutes les catégories, il est bien explicitement au-delà de toutes les catégories, mais il implique les catégories. Je ne peux pas penser le verbe sans penser le temps. Toujours lié au temps. Parce que tous les verbes sont pensés par mode d'action. Ah, par mode d'action. L'action, c'est aussi une catégorie. Alors, vous voyez cette chose très curieuse. Les catégories sont présentes dans le jugement d'existence. Et si les catégories sont présentes dans le jugement d'existence, je vois donc qu'il y a bien un dépassement des catégories, mais que ce dépassement justement n'existe que dans la mesure où j'ai dépassé les catégories. Avant de pouvoir dire ceci est, et c'est ça qui est très curieux, avant de pouvoir dire ceci est, il faut penser animal, homme, le vivant. Il faut penser une substance seconde. Et avant de pouvoir dire « et », il faut penser le temps, l'action. Il faut le dépasser. Donc, le jugement d'existence, si simple qu'il soit, et qui apparaît comme au-delà des catégories, c'est très vrai, il est au-delà des catégories, explicitement, implicitement implique les catégories. Donc, ceci confirme que l'opération élémentaire avant le jugement, c'est bien l'appréhension des catégories. C'est l'appréhension des catégories qui est ce qui est antérieur à tout jugement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette appréhension des catégories? Qu'est-ce que c'est que cette opération élémentaire? Vous voyez, je reviens à la grande question. On a fait quelques petits progrès parce qu'on a vu quand même comment il s'agissait de la connaissance des catégories. Connaître les catégories, c'est quelque chose de tout à fait élémentaire, les catégories. C'est quelque chose d'élémentaire au niveau critique. C'est toute la structure de ma pensée. La structure de ma pensée, c'est les catégories. Alors, qu'est-ce que c'est que connaître les catégories? Les catégories représentent des significations tout à fait simples de la réalité. Les significations tout à fait premières. Alors, prenons, si vous voulez, la catégorie première, parce que c'est toujours elle qui, d'une certaine manière, fait connaître les autres, la substance seconde. La substance seconde, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie la quiddité de Pierre. Elle signifie la quiddité, nous retrouvons le point de vue du to di er eima. Cette fameuse quiddité. Quidditas. Et c'est très vrai que chaque catégorie signifie une quiddité. À la Il faut encore comprendre ce que c'est que l'unité, hein, parce que si vous dites chaque catégorie, l'unité, j'aime encore mieux regarder catégorie que l'unité. C'est plus intelligible. Catégorie, ce qui est attribuable, et ce qui est attribuable d'une façon simple, l'unité, je ne vois plus du tout. N'est-ce pas ? Alors, prenez tout simplement la l'unité, la catégorie substance, substance seconde, prenez animal, exprime une certaine l'unité, une certaine détermination essentielle. C'est ça la l'unité. C'est la détermination essentielle. C'est la détermination première. C'est ce qui me donne l'intelligence de la forme. Ce qui me permet de saisir telle ou telle détermination. Je saisis sa cuidité. Et en saisissant sa cuidité, je saisis ce qu'elle est. Saisir ce qu'est une chose et saisir ce qu'est la cuidité, c'est la même chose. Donc c'est saisir ce qu'elle est. Je saisis sa cuidité. Et alors, ceci nous fait comprendre ce premier moment de la vie de l'intelligence qui regarde dans la réalité ce qu'elle est capable de saisir immédiatement.